Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase du voyage de l'apôtre Paul. Nous avons entamé cette lecture et cette étude du récit du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, surtout pour comprendre de quelle manière l'œuvre de Dieu s'accomplit et l'importance de la prière pour agir selon la volonté de Dieu. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons reprendre notre lecture là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, donc Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Je répète, Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Puis, survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules. Lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent. Il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie et annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amen. Dans ces premiers versets de notre lecture, nous retrouvons l'apôtre Paul dans une situation très difficile. Il a été pris pour cible, il a été violemment frappé, lapidé, traîné hors de la ville et jeté comme si c'était de la poubelle. La seule chose que ceux qui avaient déjà cru dans le Seigneur ont pu faire, à part que invoquer le secours de Dieu dans les circonstances qu'ils étaient en train de vivre, a été par la suite d'entourer le corps de l'apôtre Paul, qui certainement avait dû s'évanouir à cause de la quantité de coups qu'il avait pris, et là réaliser que, en effet, cet homme n'était pas mort, mais que Dieu avait fait grâce à sa vie. Ils l'ont relevé, entouré, relevé, et l'apôtre Paul retourne dans la ville. L'image de ce que nous venons de lire, certainement, nous amène à quelque chose, à une vision terrible, horrible. La méchanceté, la colère, la haine, la violence, tous des facteurs qui ne s'expliquent pas puisque l'attitude, le comportement de l'apôtre Paul ainsi que de Barnabas n'avait été en aucun cas une agression envers la foule ou vers qui que ce soit. Ils avaient été des instruments de la part de Dieu pour accomplir une guérison. Et la foule n'ayant pas pu faire d'eux comme des dieux, de pouvoir leur offrir des sacrifices, se sont laissés entraîner par des juifs qui étaient arrivés d'ailleurs et qui avaient conduit la foule à réagir d'une manière complètement opposée à ce qui, au départ, était leur désir. À un moment, ils étaient prêts à les vénérer. Quelques instants après, ils étaient prêts à les tuer. Ce qui est particulièrement important à retenir dans cette histoire, c'est la manière où l'apôtre Paul se relève. Il est certes que sans la main de Dieu, sans la grâce de Dieu, après avoir vécu physiquement ce qu'il avait vécu, et j'imagine aussi la frayeur morale, psychologique, sans le secours de Dieu, aucunement il aurait pu se relever aussi vite et il aurait pu reprendre le voyage dès le jour d'après. La main de Dieu est celle qui agit d'une manière puissante même dans les conditions et dans les situations et dans les circonstances les plus difficiles. Si l'apôtre Paul, lui, l'a vécu en première personne et il a été l'objet de la violence et de la colère, j'imagine que pour toutes ces personnes qui étaient là et qui attendaient juste de pouvoir recueillir son corps, ont dû certainement prendre du temps dans leur cœur, dans leur âme, en criant à Dieu pour le secours. L'importance de la prière et savoir que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons peut-être même voir de nos yeux. Jusqu'au moment où ils se sont approchés du corps de l'apôtre Paul, ils devaient imaginer que l'apôtre Paul était mort. Mais la réalité, c'est que Dieu nous donne un esprit de vie. Dieu est celui qui vient nous secourir dans les moments les plus difficiles. Et ils ont vécu cette expérience en voyant comment Dieu allait relever Paul. Parmi ces personnes qui étaient là, parmi ces chrétiens, ces premiers croyants, il y avait aussi un petit jeune que nous retrouverons après à partir du chapitre 16 du livre des Actes, Timothée. Lui aussi a été témoin de ce qui s'est passé et je pense que ces moments, ces actes, ces actions ont dû fortement impressionner sa foi au point de l'amener davantage à s'accrocher au Seigneur. Nous devons apprendre des expériences, nous devons retenir la manière où Dieu vient à notre secours pour en faire pour nous une force. Une force dans les moments même les plus difficiles. À l'image de David qui rapportera au roi Saül les expériences qu'il avait déjà faites dans le passé lors de ses combats face à un ours, face à un lion, puis pour pouvoir arracher ses brebis qui avaient été pris du troupeau. Et la manière où Dieu lui avait accordé la victoire. L'importance pour nous de savoir que Dieu est tout-puissant. La parole de Dieu nous dit qu'à partir de là, le jour d'après, l'apôtre Paul reprend la route. Incroyable, impensable humainement. Sans la main de Dieu, ils auraient dû prendre je ne sais pas combien de jours pour récupérer le temps de soigner son corps, mais Dieu avait agi d'une manière incroyable. Béni soit Dieu pour le secours qu'il accorde à ses enfants. Et il nous dit qu'à partir de là, il reprend ce voyage et il n'hésite pas à retourner dans les villes de Lystre, d'Iconium, d'Antioche, où ils ont aussi souffert la persécution et où ils vont retrouver les mêmes ennemis. Et on voit que dans ces villes, il continue à agir et œuvrer pour le nom du Seigneur dans le but de affermir et afin de amener et encourager cette jeune église à persévérer dans la foi. Paul n'était pas un téméraire. Paul était un homme de foi. Et Dieu ne nous demande pas d'être des téméraires, mais d'être des hommes et des femmes de foi. Qu'ils savent exactement ce que Dieu attend d'eux et qui vont jusqu'au bout de leur mission pour accomplir ce que Dieu a prévu. Parce que c'est justement dans ces moments-là et dans ces conditions-là que la gloire de Dieu se manifeste le plus. Oui, c'est au moment des difficultés et des épreuves que nous voyons la main et l'intervention de Dieu venir et affermir, pas seulement notre cœur, mais aussi ceux qui sont autour de nous. Le texte continue. Il nous dit que ils avaient repris ce chemin et que avant de partir, ils avaient pris le temps d'établir des anciens dans chaque église des responsables et après avoir prié et jeûné. Ils vont prendre encore ce temps pour assurer autour du peuple des hommes qui vont devoir prendre la responsabilité et la charge du troupeau qui appartient à Dieu. Je dis la charge parce qu'ils étaient là pour apporter la parole de Dieu, mais la responsabilité parce qu'ils devaient aussi être exemplaires par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais tout cela ne peut pas se réaliser et l'Église ne peut pas grandir, l'Église ne peut pas se structurer si l'Église ne prend pas le temps de comprendre et d'apprendre ce que Dieu attend d'elle. Et nous voyons dans ce texte qui, en effet, les choses se réaliseront avec la prière et le jeûne. Deux éléments importants de la vie de l'Église. Passer à côté de ces moments privilégiés dans le jeûne et la prière, c'est à quelque part vouloir passer à côté de la vérité et du projet que Dieu a prévu pour l'Église. Nous, autant qu'hommes, nous pouvons avoir beaucoup de projets. Nous pouvons mettre en place beaucoup de théories et de principes. Mais ceux qui vont se réaliser véritablement, c'est les projets de Dieu. Et si nous voulons être dans les projets de Dieu, nous devons marcher comme Dieu nous le demande. Le jeûne et la prière font partie de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas imaginer, et nous ne devons pas imaginer un instant, de pouvoir, à quelque part, nous soustraire à cette réalité, mais aussi à cette responsabilité qui est la nôtre de placer nos vies entre les mains de Dieu et de nous attendre de lui cette nourriture spirituelle qui vient du ciel, en mettant de côté tout ce qui pourrait être pour nous un frein, tout ce qui pourrait être pour nous un empêchement, tout ce qui pourrait être pour nous, voire même une distraction, pour nous laisser amener loin du projet de Dieu. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont nommé des responsables, et après quoi, ils ont continué leur voyage en ayant recommandé tous ses frères, tous ses sœurs au Seigneur, les avoir déposés entre les mains de Dieu. Il est et il demeure celui qui veille sur son peuple. Jésus a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours. Quelle grâce! Mais il est important pour nous aussi d'accepter de nous placer entre ses mains. Le texte nous dit que de là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu. Ah, et combien il est important d'avoir un port d'attache, même pour quelqu'un comme l'apôtre Paul et comme Barnabas. Ils avaient une église dans laquelle ils avaient leur port d'attache. Nous avons chacun d'entre nous besoin d'avoir un lieu dans lequel, premièrement, nous sommes entourés, deuxièmement, nous sommes impliqués. Troisièmement, nous sommes nous-mêmes soumis à l'ensemble. Et nous voyons que dans un des premiers actes accomplis par Paul et Barnabas, c'est celui d'organiser une réunion et présenter à l'Église qui les avait recommandés à la grâce de Dieu, leur présenter et leur faire un rapport de la mission accomplie. Parce que Paul et Barnabas sont partis. Ils ont accompli le voyage. Ils ont souffert tout ce qu'on a pu déjà partager dans le texte. Mais l'Église d'Antioche, elle n'a pas cessé de prier pour ceux qu'elle avait envoyés. Et il était tout à fait normal que l'Église puisse avoir un retour, savoir comment Dieu avait exprimé sa puissance, son autorité, comment Dieu avait travailler pour cette ouverture d'église, pour que cet évangile se répande. L'église ne s'était pas simplement occupée d'envoyer Paul et Barnabas, mais ils étaient engagés spirituellement dans la prière, dans le jeûne, pour accompagner cette œuvre de Dieu. De là l'importance pour toute église de considérer que le travail qui est accompli par les uns ou par les autres, l'Église est responsable et elle doit être engagée dans ce service, engagée dans la prière, engagée dans le jeûne. Nous avons ensemble, devant le Seigneur, la responsabilité d'apporter cet évangile de vie, de joie, de bonheur et de salut aux âmes qui sont perdues. Certes, Paul et Barnabas avaient été choisis pour être ceux qui devaient accomplir le travail sur le terrain. mais l'Église, et celle qui est choisie par Dieu pour accomplir le travail dans l'esprit et dans la prière. Cet engagement commun a permis à cette œuvre de Dieu de s'accomplir d'une manière incroyable. Dès leur retour, en effet, l'apôtre Paul va conduire l'auditoire à entendre comment les pays qu'ils ont parcourus dans toutes les villes où ils ont annoncé l'Évangile, et il leur raconte comment Dieu avait donné du succès à cette parole de l'Évangile, malgré les épreuves. Ce qu'ils ont pu vivre et faire, ils l'ont attribué à Dieu, parce que c'était pour la gloire de Dieu, et c'est à Dieu qui revient toute la gloire. Les résultats de leur voyage prouvaient d'une manière éclatante que Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi. Pour autant que le récit de Luc est complet, Paul et Barnabas ont pu raconter la fondation de cette église comme résultat de cette première mission. Deux, dans l'île de Chypre, puis à Antioche, Pisidie, Iconium, Lystre, Derbe, Perge. Là, c'était, oui, on peut dire, des petits commencements, mais assez pour réjouir l'église d'Antioche et lui faire tout espérer pour l'avenir. Cette église, cette œuvre, dans un voyage qui a commencé dans un temps de jeûne et de prière, dans laquelle le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas ». L'engagement de ces hommes de Dieu, l'engagement de l'Église, mais avant tout, l'engagement de Dieu à conduire ceux qui se confient en lui, ont permis une œuvre incroyable. L'évangile de la foi avait ouvert ses portes aux païens, dont nous faisons partie, vous et moi. Béni soit Dieu pour cet évangile de salut qui nous a été transmis, qui nous a été accordé, et que Dieu veut inscrire dans nos cœurs. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de travailler dans la continuité, en nous tenant dans la prière, dans le jeûne, pour demander à Dieu de nous donner la direction pour que Dieu suscite des hommes pour annoncer l'Évangile, pour que Dieu puisse, dans chaque ville où le nom de l'Éternel est annoncé, permettre une ouverture d'un lieu de culte, mais qui est fondé sur la prière et plus qu'un lieu de culte, je dirais d'un peuple qui s'attache à Dieu. L'important ne sont pas les locaux. Ce qui est le plus important, c'est les cœurs. Que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur qui est prêt à s'engager pour servir Dieu. Certes, il faut une église qui prie. Certes, il faut une église qui jeûne. Certes, il faut une église qui est prête à s'engager et à envoyer. Mais il faut aussi des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir Dieu. Chacun dans ce que Dieu lui a donné. Et lorsque nous prenons la part que Dieu nous donne, nous sommes, nous aussi, non pas des spectateurs, mais des acteurs dans l'œuvre de Dieu. Et comme l'apôtre Paul l'a enseigné à la première église, c'est certes par beaucoup d'épreuves, voire même des tribulations, que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Mais tout cela est entre les mains de Dieu. Et Dieu saura comment nous accompagner, comment nous fortifier, comment nous relever. Alors sans tarder, plaçons nos cœurs entre les mains de Dieu. Et nous aussi, engageons-nous à prier et à servir ce Dieu glorieux et merveilleux. Prenons du temps et chacun d'entre nous, prions et invoquons le nom de l'Éternel.